Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous.
Salut Flavio.
Salut Julien.
Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait super plaisir.
Ouais, carrément. Écoute, est-ce que tu peux déjà commencer par nous donner ta définition personnelle de la performance ?
Ouais, vaste question, hein, comme à chaque fois dans tes podcasts, moi j'aime beaucoup la réponse de chacun. Écoute, pour moi, par définition, la performance, c'est le dépassement de soi par la structuration, je dirais, l'optimisation de tous les déterminants de la performance. Et ils sont larges, c'est vaste. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Par définition, la performance, c'est le dépassement de soi, avant le dépassement des autres. Et je trouve que ça passe par une structuration, par des fondations solides et par ensuite l'optimisation de chaque détail, de chaque 1%, de chaque déterminant de la performance. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair.
Si, top, top. Et comme voilà. Déterminant de la performance, à quoi tu penses, à quelque chose en particulier ?
Il y a un peu tout hein, dans les sports d'endurance. Je pense qu'il y a d'abord une capacité, de l'endurance fondamentale, d'avoir une bonne base là-dessus, puis après travailler tout ce qui va être fractionné, endurance de force, force explosive, même sur des sports d'endurance. Ça, c'est des choses qu'on oublie souvent, mais t'as l'étude de Blagrove, par exemple, en 2018, qui montre que même la plio et même les gammes chez des marathoniens peut augmenter la performance. Donc, c'est des choses qu'on passe à l'âge souvent. Je pense que c'est des choses qui peuvent être optimisables. Mais plein d'autres choses aussi, telles que le sommeil. La sommeil, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et pour moi, c'est vraiment l'un des déterminants, premièrement, de la santé et ensuite de la performance. Donc, voilà, ça peut être tout ce genre d'éléments-là.
Super, super. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, où tu as fait tes études, etc.
Ouais. Alors moi, j'ai eu mon diplôme de kiné à Grenoble en 2010, l'IFM 4 Grenoble. Et en fait, moi, j'ai grandi à Valence. Je fais l'école à Grenoble. Et la particularité à Grenoble, c'est que on sortait avec un DE et un master 1. Donc en fait on avait la possibilité de continuer en master 2, donc j'ai fait un master 2 en STAPS qui s'appelle mouvement, performance, santé, ingénierie, qui s'est fait donc en 2011, enfin je l'ai eu en 2011 et je voulais absolument faire ce master là puisque il y avait un stage de 6 mois à l'étranger et donc je suis parti 6 mois au Canada anglophone. Dans l'un des meilleurs labos de recherche musculosquelettique qui s'appelait, enfin, en tout cas à l'époque, c'est l'université de l'Alberta, donc à Edmonton. J'ai passé 6 mois là-bas, où en fait j'ai fait mon mémoire de recherche là-bas. Donc on a fait une étude clinique, une étude randomisée. On comparait l'approche McKenzie à un programme de stabilisation, notamment l'approche australienne, tout ce qui était à l'époque Paul Hodges, Gwendolyn Jewell, Richardson, tous ces gens-là qui avaient pas mal publié sur le transverse, et on a fait une petite étude randomisée, non publiable, puisqu'il y avait très peu de gens, elle n'était pas assez puissante. Mais c'était une superbe expérience, j'ai appris énormément de choses. Et voilà, j'ai eu aussi un poste un petit peu d'assistant de recherche, donc je participais à des projets. Je faisais la petite main, je faisais du phoning, je répondais aux patients qui appelaient pour participer à des études, voir si ils passaient les seuils de score, parce que tu sais, pour intégrer une étude clinique, en tout cas au Canada à cette époque-là, enfin ça dépend des protocoles, mais il fallait que tu aies un certain niveau de disability, de handicap fonctionnel pour être représentatif des gens qui avaient consulté. Donc en fait, je faisais un screening par exemple des patients lombalgiques sur le score d'ossuasserie si pouvaient intégrer l'étude. Voilà, j'ai participé aussi à d'autres projets de recherche, notamment d'Arnold Wong sur les manies vertébrales. Voilà, pas mal de petits trucs comme ça.
Et c'était pas compliqué pour un francophone de débarquer comme ça dans un, tu vois, sur de la recherche, sur des trucs peut-être en 2010 en France où on avait, je pense quand même du retard. Et voilà, en tant que francophone et avec le retard qu'on avait peut-être en francophonie, notamment en France, débarquer comme ça, faire de la recherche et en anglais, comment tu fais?
Alors c'est ça le truc, c'est qu'en fait moi à l'époque j'avais un gros intérêt pour le musculo-squelettique, la kiné du sport, mais aussi pour le rachis. Et en fait je me suis dit, il y a forcément quelqu'un dans ce monde qui est francophone et qui est dans une province anglophone. Et en fait j'ai trouvé, c'était un professeur qui est maintenant associé professeur à l'université de l'Alberta qui s'appelle Eric Parent, qui en fait était spécialisé dans le rachis, qui avait les mêmes intérêts que moi et qui a fait son université à Laval. D'ailleurs Blaise, ils ont été dans la même université puisqu'il a été à l'université Laval, je crois qu'ils se sont croisés, ils se connaissaient de vue. Et en fait, Eric était assistant professeur à Edmonton et en fait, on a eu un bon feeling. Et puis, il m'a accepté en stage, en master. Donc, moi, j'ai appris l'anglais. Je ne parlais pas un mot d'anglais à la base. J'ai appris avec, je me souviens à l'époque, How I Met Your Mother, la série. J'ai appris l'anglais comme ça et en fait en janvier, bah très vite, je me suis immergé, j'ai coupé tout le lien avec le français pour apprendre l'anglais le plus vite possible. Et en fait très rapidement, un mois ou deux après, on commençait à recruter des patients pour l'étude. Donc j'évaluais, je traitais des patients là-bas avec Eric. Voilà.
Putain, c'est énorme. Et qu'est-ce que t'as fait alors après?
Alors après, longue histoire, en fait je finis mon master en juin 2011 et en janvier 2013, je devais faire ma thèse de doctorat avec Mark Laslett, donc un des spécialistes du rachis en Nouvelle-Zélande. Et en fait, je devais commencer ma thèse en février 2012, donc j'avais 6 mois à tuer entre la fin du master et le début de la thèse là-bas. Et je me dis en rentrant du Canada, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je monte à Paris, je voulais vivre la vie parisienne avant de partir 3-4 ans à l'autre bout du monde, etc. Et en fait, donc je monte à Paris, je suis dans une chambre de bonne, j'ai même pas de machine à laver, dans un appart, dans un couloir squatté, une galère totale. Paradoxalement, je tombe amoureux de la ville. Je trouve que Paris, c'est vraiment incroyable. Elle me fascine toujours, cette ville, tu vois, après plus de 10 ans où j'y suis, là. Et en fait, j'apprends en novembre 2011 que j'ai pas la bourse doctorale et donc je peux pas partir en Nouvelle-Zélande. Okay. Donc, grosse déception. Je pense que j'étais pas assez bon. Je pense que c'était pas dans leur priorité de recherche, le disque, à l'époque. Et ils mettaient plus des budgets sur l'arthrose, les cancers, les maladies chroniques, ce genre de choses-là. Et la bourse doctorale de l'Université d'Auckland représentait 100 000 dollars néo-zélandais. Et en fait, en Australie, Nouvelle-Zélande, ils t'acceptent pas, c'était pas financé, parce que c'est ton salaire et de scolarité pendant 3-4 ans. Donc, j'ai pris un assistanat en janvier 2012, je me suis installé à Paris. Et en fait, très rapidement, en commençant l'assistanat, je me suis dit qu'il fallait que je m'installe, que j'ouvre mon propre cabinet. Donc en fait j'ai fait un an et quelques d'assistanat et en avril 2013 on crée le cabinet où j'exerce encore aujourd'hui, c'est le centre Kinésport Paris 5. Donc voilà, ça va faire 10 ans, je vais fêter mes 10 ans dans ce cabinet là et c'est toujours aussi chouette.
Ah, c'est ouf et parce que t'as pas eu entre guillemets que ça comme projet, parce que t'as fait d'autres choses et notamment l'agence BP. À quel moment justement tu te dis, maintenant j'ai libéral, ça me plaît, mais je veux pas que ça, je veux autre chose? À quel moment ça arrive?
Ouais, en fait, Courant 2014, en fait, avec François Villiers, mon associé de l'agence, on a été pas mal investi dans l'associatif, notamment dans l'association française francophone Mackenzie. On avait co-organisé aussi les JFK. On était très, voilà, très dans l'événementiel, kiné, etc. Et en fait, on s'est dit, nous, il y a plein de gens qu'on a envie d'écouter en France et qui passaient pas à l'époque. Et on s'est dit, écoute, on va les faire venir, quoi. Et en fait, au même moment, il y a Guillaume Deville, mon autre associé d'agence, qui voulait faire à peu près le même projet, qui voulait inviter des speakers un peu internationaux. Et en fait, on s'est dit, allez, les gars, on s'associe et puis on invite des gens qu'on a envie de faire venir. Donc, en fait, au début, c'est parti d'un gros délire. On s'est dit, on a trop envie de l'écouter. Lui, on adore ses publics. On adore ce qu'il fait. On le trouve super intéressant. On l'a vu en conférence. Allez, go, on l'invite. Et puis, on verra bien si ça prend, si ça prend pas. Au pire, tant pis. En fait, gros carton. On lance donc l'agence en février 2015 et en courant fin d'année 2015, on fait venir Mike Stewart pour un cours incroyablement novateur pour l'époque, puisque là, on est en 2015, donc il y a 7 ans, et on parlait de communication avec les patients douloureux chroniques, comment expliquer la douleur aux patients douloureux chroniques en utilisant des métaphores, etc. Chose qui, maintenant, on en parle de plus en plus, tout le monde essaie, tout le monde le fait un peu, etc. À l'époque, c'était complètement disruptif dans les cours dans les formations continues en France. Donc voilà. Et puis après, on a invité d'autres gens, dont Chad Cook, Mark Laslett, Jeremy Lewis, puis Joe Gibson, puis etc., etc. Et puis maintenant, on collabore avec une cinquantaine de speakers répartis dans 11 pays différents. Ouais, on a organisé 2 summits, donc avec les 20, en tout cas, on pense, meilleurs speakers sur l'épaule et sur le membre inférieur. C'est une conférence qu'on fait tous les 3 ans à Paris. Et donc, voilà, c'est fou. Maintenant, on a formé plus de 8000 personnes en 7 ans. On est, je pense, parmi les groupes les plus suivis sur les réseaux sociaux, puisqu'on publie un post par jour depuis 7 ans pour vulgariser la science, expliquer tout ce contenu-là. Et donc voilà. Et les gens nous le rendent super bien. On a souvent des feedbacks très gentils, très très chouettes, et ça nous donne l'énergie pour continuer.
C'est énorme. Et vous êtes présent pas qu'en France, il me semble, vous êtes présent aussi ailleurs en francophonie, c'est ça?
Ouais, exactement. En fait, ça aussi, c'est parti d'un gros délire. Alors, déjà, nous, on a des formations en présentiel et en e-learning. Donc, par définition, le e-learning, tu peux le faire où tu veux. Donc, on a des participants au Québec, en Belgique, beaucoup, en Suisse. Et en fait, c'est parti d'un gros délire aussi. On s'est dit, mais attends, on fait du e-learning en français. L'objectif de l'agence, c'est d'apporter le meilleur de la connaissance dans la langue natale des gens. Et en fait, on s'est dit, écoute, on va les traduire. On va les traduire et on va les envoyer dans tous les pays non anglophones. Donc en fait, on a recruté des gens pour traduire en espagnol, italien et portugais. Donc en fait, maintenant, on a des équipes de traduction qui traduisent tout le matériel et qui permettent d'apporter, par exemple, Jeremy Lewis en espagnol, Joe Gibson en espagnol, de partout dans le monde, sur les 5 continents, en espagnol. Donc en fait, on a aussi des clients en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, et puis un peu en Italie, et puis là on commence le Portugal, donc le Brésil notamment, et le Portugal. Donc voilà, ouais, c'est une aventure humaine assez incroyable, puisqu'on est une quarantaine maintenant dans l'agence. Ouais, le rêve, l'ambition est folle, quoi. L'ambition, c'est d'apporter le meilleur de la connaissance dans la langue natale des gens depuis chez eux.
C'est ouf. Voilà. Et du coup, alors t'as parlé de ce mythe et tout ça, donc ouais. Il me semble que c'était en novembre 2022, celui sur le membre inférieur, et le prochain, donc dans 2 ans, est-ce que vous avez déjà un peu des idées, ou sur quoi ça serait?
Alors, le premier était en 2019, c'était sur l'épaule. Là, on a fait donc en octobre 2022 le Paris Slow Walling Summit, donc avec toutes les sommités sur le membrin, donc Jill Cook, Christian Torborg, il y a qui Phil Glasgow, Nicole Van Dyck, Amy Arundel, enfin, j'en passe, c'était une vingtaine. François Fourchet, bien entendu, tous les francophones. Je pense souvent aux internationaux, mais les francophones ont fait un carton. Brice Picot aussi, ouais. Je pense à Alexandre Rambeau, Boris Kojanovic, la tour en force, comme on dit, l'hôpital de la tour force. Et franchement, ils ont fait un carton. On a eu des super bons feedbacks sur tout le monde, en particulier des francophones. Donc voilà. Ouais, le prochain summit, écoute, déjà, c'est tellement d'énergie et d'organisation, de logistique, de tout ça, de réunir 700 personnes sur deux jours avec tous ces speakers-là, que pour l'instant, on réfléchit, on récupère déjà parce que en parallèle de ça, j'ai beaucoup de choses à gérer aussi côté agence, puis pour d'autres projets, notamment notre salle de formation à Paris, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et en fait, là, je récupère déjà un petit peu et je viens de déménager. Tu vois, j'ai déménagé le 3 janvier, donc il y a quelques jours. Donc voilà, tout un rythme tranquille, tu vois. Donc je vais réfléchir. On va réfléchir au thème du prochain summit, mais le concept restera le même. C'est d'avoir les meilleurs orateurs, les meilleurs chercheurs et les meilleurs cliniciens au monde sur la thématique qu'on choisira. Et on se met aucune limite en termes de thématique. Tout est possible. Donc on regarde, on écoute, on se laisse inspirer, porter par les gens, et le jour où ça trouvera une forme de cohérence pour faire un summit digne de ce nom, on organisera ça. Ouais.
Ah, c'est top. Et alors en plus de ça, parce que ça suffisait pas, tu t'occupes aussi beaucoup de la clinique du coureur côté Europe, c'est ça?
Oui, exactement, Europe francophone. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au même moment où on lançait l'agence EBP, début 2015, en fait, moi, j'avais vraiment envie de faire le cours de la clinique du coureur, donc qui était donné par Blaise à l'époque. En fait, je fais venir Blaise à Paris pour donner son cours en fin 2014, novembre 2014, en fait. Et écoute, c'était trop marrant parce que premier cours à Paris de Blaise, je mets un message à tous mes potes, etc. Donc 30 potes dans le cours, grosse ambiance. On trouve le cours génial, on trouve Blaise hyper charismatique, hyper intéressant. Et puis moi, de mon côté, en tant qu'organisateur et en ayant un rapport un peu proche avec lui, on a eu un gros match intellectuel avec Blaise. On avait vraiment la même vision des choses, d'un point de vue kiné, musculo-squelettique, etc. Et en fait, début 2015, il me demande si je souhaite développer la clinique du coureur en France avec Florence Morisseau. Et en fait, moi, je lançais l'agence, mais tu vois, l'agence était à zéro, quoi. On avait fait organiser zéro cours, on faisait rien, quoi. Et donc là, je lui dis, écoute, ouais, avec plaisir, on lance la clinique du coureur, aucun problème. Et puis en 2015, on a fait 8 cours. Et l'année dernière, là, on a fait 140 cours. On a 17 profs, 2 salariés. On forme plus de 3000 personnes par an. Et c'est ouf. Et donc en 2017, on a vraiment lancé la filiale en France. Donc dans laquelle je suis associé avec Florence Morisseau et la clinique du coureur Canada, dans laquelle il y a pas mal de gens, et là on vient d'ouvrir à différents associés en France aussi. Donc voilà, et moi j'ai hérité donc du poste de directeur général de la clinique du coureur France, qu'on appelle Running Education. Ici, le nom de l'entité, c'est Running Education. Et donc, c'est moi qui suis un petit peu... J'ai eu d'abord le rôle d'enseignant principal. Donc, c'est moi qui ai... J'ai suivi Blaise, en fait, pendant 2 ans et demi sur les cours. 2 ans et demi, 3 ans sur les cours, en étant assistant. Et puis, moi, j'ai développé une spécialité au cabinet de prise en charge des coureurs. Donc maintenant j'ai 50% de ma patientèle qui fait de la course à pied. J'ai 80% de kiné du sport. Et le reste, c'est du rachis. Un peu d'épaule de temps en temps, un peu de cervicale, que j'aime bien, ça change un peu. Donc une pratique très très orientée, très orientée coureur, très orientée sport. Et voilà, et donc je suis enseignant principal pour la clinique du coureur, et donc j'ai contribué à former les enseignants qui ont suivi. Et c'est moi qui suis un peu responsable des idées un peu à la clinique, de la structuration. Voilà.
C'est ouf. Et alors pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec Blaise, c'est l'épisode 43 et qui marche aussi super bien évidemment, et connaissant Blaise, et tu as parlé de charisme, c'est exactement ça, et même à l'oral, tu sens qu'il maîtrise, qu'il est à l'aise, et c'est c'est vraiment quelqu'un, voilà, d'intéressant à écouter et je pense encore plus à connaître. Et pour revenir sur ta pratique libérale, tu nous as parlé des coureurs. C'est quoi, on va dire, les pathologies, tes pathologies préférées, ou quand tu vois arriver un patient qui a ça, tu dis putain, c'est génial, on va kiffer et moi je vais kiffer. Et celle où, on va dire, où tu galères un peu plus, où tu dis putain, ça va être la merde, ça va être galère pour tous les deux pendant un moment.
Ouais, bah écoute, moi ce que j'aime beaucoup les pathos du coureur, je trouve que c'est les pathos très très patho-anatomiques, j'ai envie de dire, parce qu'il y a telle contrainte en course à pied que tu arrives facilement à hériter des tissus spécifiques. Ce que j'aime bien, c'est les cas de bandelettes un peu complexes, qui souvent aussi sont des problèmes de rachis, je trouve de tension, enfin de douleur neuroméningée, ce genre de choses-là. Les cas un peu complexes, bandelettes, j'aime bien. Souvent, je me régale un peu parce que je trouve que je passe après beaucoup de thérapeutes et de médecins et de kinés qui sont un peu cassés les dents, et avec le recul et le diagnostic différentiel et peut-être ma capacité un peu à interroger les gens, à faire les bons tests au bon moment, je pense que j'arrive à faire un petit peu la différence sur des pathos un peu complexes. Après, j'aime bien tout ce qui est rachis aussi. Ça, c'était mon premier amour, comme on dirait. Voilà, ce qui est lésions musculaires aussi. J'aime bien pousser les gens loin dans la progression des forces. Tu vois, par exemple, sur les lésions ischio, etc. Après, qu'est-ce que j'aime moins? Ben, ce qui est un petit peu plus dur et énergivore, hein, je crois, comme tout le monde, tu vois, les pathos chroniques où t'as besoin de vraiment beaucoup de patience, beaucoup d'éducation, beaucoup de communication, beaucoup d'empathie, et tout ça, c'est vrai que ça nécessite beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'avec le quotidien que j'ai en ce moment, tu perds la patience, tu vois, tu perds la patience, t'as besoin de tout vite, t'as besoin que ça avance, et c'est vrai que parfois je m'observe manquer de patience un petit peu avec les gens, mais quand je le sens, je me dis que c'est une piqûre de rappel pour me dire « Wow, calme-toi, t'es au cabinet, t'as pas besoin que ça aille à 200 à l'heure. » Chacun avance à sa vitesse et voilà.
Top. Et sur le TFL, alors justement, comment tu le bilantes un petit peu? Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas fouiller?
Ouais, assez simple, assez clair, hein. Sur le TFL, c'est vraiment une pathologie de répétition, ça arrive sur du long, plus ou moins avec de la descente. La douleur est caractéristique face latérale du genou, elle va être les gens à l'interrogatoire, ce qui est fascinant avec ce truc, c'est que en 2010, on savait pas quoi faire. Tu vois, on faisait massage, ultrason et ultrason, je ne fais plus d'ailleurs depuis bien 10 ans. Ultrason et étirement. Et maintenant, je fais absolument rien de tout ça. Donc, j'interroge bien les gens. Souvent, donc, t'as une course longue, une douleur qui est apparue sur la face latérale du genou, qui empêche la personne de courir au bout de 8 à 10 minutes. Et la douleur est extrêmement douloureuse, gênante, vraiment super painful. T'es obligé de t'arrêter. Alors, ce qui est fascinant dans l'interrogatoire, c'est que t'as des gens qui vont te dire « j'ai moins mal quand je cours plus vite ». Et alors ça, c'est vraiment un marqueur pour moi intéressant de bandelette. T'as des gens qui vont me dire je pouvais continuer à courir si j'écartais les jambes. Donc ça, c'est pour réduire le stress sur la bandelette. Donc ça, dès l'interrogatoire, je vais avoir des marqueurs hyper intéressants. Puis après, bah évidemment, je vais vérifier mes amplitudes. Il y a pas de perte d'amplitude, il y a pas de perte de force. Et je vais finir par le test de Noble, que je vais faire avec des composantes très spécifiques de varisation et de rotation interne tibiale pendant que je maintiens ma pression sur le légèrement supérieur au condyle fémoral latéral, et je vais faire mes allers-retours avec la jambe, et là souvent ça va recréer la douleur. Et si mon patient n'a pas mal, jusque là je considère que c'est un faux négatif, je vais le faire courir, provoquer les symptômes, et on refait le test ensuite, et là souvent ça pop. Donc voilà, c'est une procédure que j'aime bien faire, avec parfois un petit diagnostic différentiel au niveau du rachis, donc les tests neuroméningés, les mouvements répétés au niveau lombaire. Pour être sûr, quand tu as une douleur qui est un peu bizarre, qui irradie un peu, être sûr que c'est pas le rachis quand même. Donc voilà, c'est un peu mon approche sur le TFL.
Top.
En termes de diagnostic.
Ouais. Et tout à l'heure, tu nous as parlé aussi du sommeil et de l'importance du sommeil. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as cette, on va dire, appétence, et qu'est-ce qu'un bon sommeil au final?
Oui, en fait, moi, c'est vraiment parti de mon histoire perso. Moi, chaque fin de semestre, j'étais cramé. Et quand je dis cramé, c'est quand t'enchaînes de 2015, de 2016, j'ai envie de dire, à 2020, probablement avant le Covid, je devais faire un cours de la clinique du coureur toutes les 2 semaines en moyenne, à peu près, hors vacances scolaires, en moyenne. Donc, je donnais vraiment beaucoup de cours, un à Paris, un à l'extérieur. J'étais cramé en fin de semestre et je me suis aperçu que j'avais plus de douleurs lombaires. J'avais souvent un bouton de fièvre qui apparaissait. Et en fait, pendant les vacances, j'avais 2-3 jours où je faisais des grosses nuits de sommeil, je récupérais. Et en fait, je me suis dit, mais attends, il faudrait que j'approfondisse un petit peu le sommeil. Puis ça commençait à arriver un peu dans la science, et commençait à y avoir des auteurs qui pointaient ça, notamment Adrienne Lowe, voilà. Et je commençais à lire tout ça et je me disais, mais attends, mais en fait, ce qui va conditionner ta journée, c'est la qualité de ton sommeil. Donc en fait, j'ai commencé à me documenter là-dessus, à lire pas mal d'articles, et en fait, j'ai changé pas mal de choses dans ma façon de d'approcher le sommeil. Typiquement, tu vois, moi, je pense que je commençais trop tôt au cabinet. Et vraiment, ça me fatiguait. Je commençais à 8h le matin. Je me suis dit, mais c'est quoi mon chronotype? C'est-à-dire, de quoi j'ai besoin concrètement pour être bien, pour avoir un bon sommeil? Ta question, comment avoir un bon sommeil? Bah, la première des choses, pour avoir un bon sommeil, il faut calculer son chronotype. Le chronotype, c'est l'ensemble des signes et comportements que tu as en lien avec ton sommeil, c'est-à-dire à quelle heure tu as envie d'aller dormir, à quelle heure tu as besoin de te réveiller, enfin à quelle heure tu te réveilles naturellement, sans interférence. Et en fait, pour moi, j'ai vraiment besoin d'être au lit et de dormir vers 11h, 11h30, idéalement. Et je me réveille à 7h45. Ça, c'est vraiment mon chronotype. Donc en fait, j'ai basé maintenant mes journées là-dessus. Donc tu vois, par exemple, pour me diriger vers le lit, j'ai une alarme à 23h qui me dit, là, il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire et je vais au lit. Et le matin, je mets toujours mon réveil à la même heure, 7h45, et je me lève toujours à la même heure. Ça, c'est vraiment un des déterminants pour avoir un bon sommeil. En fait, je commence au cabinet à 9h maintenant. Je me lève à 7h45, je lis jusqu'à 8h15. À 8h15, je vais sous la douche. À 8h30, je pars. Voilà, je suis au cabinet un petit peu avant 9h. Et ça, c'est vraiment ma routine du matin. Donc voilà, et c'est ça qu'il faut faire pour avoir un bon sommeil. Savoir bien vous connaître. Donc, est-ce que vous êtes du matin ou du soir? Combien de temps vous avez besoin de dormir? Bien respecter ça, être très régulier sur le sommeil. Et là, la journée change complètement, quoi. Tes performances, pour le coup, puisque on est sur un podcast de performance, vos performances en termes physiques et intellectuels, cognitifs, n'ont rien à voir. Ouais.
Ah, c'est super. Et tu avais sorti aussi il y a quelques semaines, un bilan EBP de la lombalgie, je crois que c'était sur YouTube. Et pareil, un peu pour le TFL, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu mets dans ce bilan EBP?
Oui, alors c'était une présentation que j'ai faite pour le congrès de la FNEC pour les étudiants à Bordeaux. Donc j'ai quand même assez simplifié, assez élagué, c'est assez synthétique, mais assez complet aussi sur mon approche de la lombalgie. En fait, ce qui est hyper intéressant avec la lombalgie, c'est qu'il faut être à la fois très bon en termes d'interrogatoire, très bon techniquement et sur la valeur des tests d'un point de vue vraiment métrologie, et d'avoir une vision extrêmement globale des patients en incluant tout ce qui est psychosocial. Donc en fait, mon bilan se détermine en 6 catégories, 6 phases en fait, où je veux d'abord avoir l'image du patient, donc vraiment qui j'ai en face de moi, sa profession, son âge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il anime, qu'est-ce qu'il passionne, quels sont ses objectifs. Ensuite, j'ai un examen des symptômes. Donc, je veux vraiment documenter les symptômes ce jour J et l'évolution des symptômes. Donc, depuis quand ça dure, comment c'est apparu, qu'est-ce qui l'empire, qu'est-ce qui lui fait du bien, quel traitement il a eu, quelle est la localisation des symptômes, quelle est la qualité des symptômes. Ensuite, je vais avoir une phase d'examen clinique. Donc là, je vais vraiment faire les tests cliniques, examens neurologiques, tests cliniques. Donc ça va être par exemple le test des mouvements répétés, les tests sacroiliaques, les tests d'instabilité. Ça peut être voilà, plein de choses par rapport à ça. Ensuite, j'ai un chapitre que je trouve essentiel et je pense qu'il va rentrer dans les mœurs très bientôt. En tout cas, j'y œuvre. C'est l'aspect modulation. Parce qu'en fait, tu as ton patient, tu as ses symptômes, tu as l'examen clinique et après, tu as comment est modulé, comment sont modulés ces symptômes en fait. Parce que tu as plein de facteurs de la modulation de la douleur, dont le sommeil. Donc, j'ai un gros chapitre sommeil où je vais vraiment questionner mon patient profondément sur le sommeil. Ensuite, j'ai un onglet un peu stress. Je veux percevoir est-ce qu'il a un stress, que ce soit perso ou pro. Je veux voir s'il a de l'anxiété. Je veux voir s'il est heureux au taf, s'il a de la reconnaissance au taf et si c'est un taf qui lui plaît. Et enfin, j'ai une ligne ouverte sur voilà la vie perso, des événements voilà qui ont pu arriver. Et une fois que j'ai ça. Modulation. Je regarde enfin les examens paracliniques, donc tout ce qui va être imagerie et blood test par exemple. Et enfin, je vais avoir ma conclusion. Et dans ma conclusion, j'ai diagnostic patho-anatomique possible ou pas possible. Ça, souvent, tu sais, quand on parle de diagnostic, les gens, ils ont l'impression que les gens qui s'intéressent au diagnostic arrivent à poser un diagnostic sur tout le monde. Tu vois, notamment au niveau du rachis. En fait, ça c'est vraiment une grosse erreur. En fait, dans plein de cas, très fréquemment, au niveau du rachis, tu n'es pas en mesure de faire un diagnostic patho-anatomique. Est-ce que c'est le disque, les articulaires post, ou la sacroiliaque ou autre chose? Et donc, moi, dans plein de cas, je mets diagnostic patho-anatomique pas possible. Et ensuite, je mets dessous mes modulateurs de la douleur. Donc, en fait, j'ai les checkbox et je veux dire la douleur est modulée par le sommeil, par le stress, par une dépression, par etc. Ensuite, j'ai des cases pour des scores fonctionnels. Tu vois, typiquement, si je sens, enfin, si mon patient a des douleurs dans de multiples zones, qu'il a une douleur constante, etc., je vais lui faire passer un CSI, donc le Central Sensitization Inventory pour la douleur nociplastique. Et enfin, je vais avoir toute ma prescription, conseil que je vais lui transmettre par mail aussi. Donc, prescription d'exercice en termes de dosage. Répétition, série, fréquence dans la journée, moment de la journée, temps de maintien, tempo, enfin toutes les caractéristiques d'une prescription d'exercice, plus des conseils sur l'aspect psychosocial, le sommeil, pourquoi pas la nutrition, etc. Ouais. Donc c'est une approche, tu vois, à la fois très très technique du réalisation des tests et statistiques et compréhension du raisonnement bayésien. Tu vois, au sens où ta probabilité pré-test va influencer ta probabilité pré-test et ton test vont influencer ta probabilité post-test, donc vraiment un aspect très technique et statistique là-dessus, et en même temps une grosse compétence, je pense, de communication, d'empathie et de d'intégration de l'aspect psychosocial. Pour résumer
super.
En quelques minutes
Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je pense que
donc les gens
vont aller la voir de suite après.
Ouais. Donc, surtout que c'est une longue vidéo d'1h30 où je détaille tout ça. Donc c'est assez accessible puisque c'était à destination des étudiants, au sens où je rentre pas dans tous les détails des tests et la métrologie et tout ça, mais ça donne déjà une bonne base, je pense, en ligne. À voir et à revoir.
super. Et j'ai eu la chance aussi d'interviewer Aymeric pour l'épisode 31. Donc Aymeric pour Aime ton kiné, que tu connais très bien. Et on avait parlé, il avait parlé de toi justement, que tu l'avais aidé sur l'article sur le CrossFit. Donc il avait envoyé dans plein de box de CrossFit pour savoir à quelle pathologie, à quelle zone anatomique était touchée, etc. Et est-ce qu'il y a une suite? Alors l'article a été publié, il me semble. Et quelle est la suite? Oui. Est-ce que vous allez en faire autre chose, continuer dans ce sens-là, ou tu vois quelle est la suite à donner?
Oui. Mais écoute, alors une petite anecdote que je te donne, je sais pas si tu savais, mais en fait Aymeric, on s'est rencontré parce que il s'était explosé le dos en CrossFit.
Ouais.
À une époque où il avait pas du tout la même hygiène de vie et la compréhension d'entraînement qu'il a aujourd'hui. J'aime bien raconter cette anecdote parce que c'était quand même folklorique, parce que en fait il s'explose le dos début septembre sur un soulevé de terre et en fait moi je le vois au cabinet et il était vraiment question de se faire opérer, etc. Et moi je lui dis non, écoute, moi je pense qu'il faut qu'on travaille un peu ensemble, ça va être dur, ça va être peut-être un peu long, mais si on peut éviter de toucher là, ça sera vraiment bien. Et écoute, ça s'est bien passé. Il a pu retrouver ses performances. Il s'en est sorti. Puis maintenant, il a explosé ses PB et c'est chouette. Et puis, il se gère, je pense, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Et en fait, de là est née une amitié. Et puis, il devait faire un petit travail sur le CrossFit. Et en fait, ça s'est transformé en grosse étude, en grosse étude, puisqu'il a... Il y avait un gros réseau dans le CrossFit, donc on a interrogé 74 box et on a eu 3000 réponses. Et c'est vrai que ça... Moi, je t'avoue que j'ai eu beau rôle dans l'histoire puisque j'ai pas fait grand-chose à part écrire l'article, puisque Emeric avait pas forcément beaucoup de, voilà, de ressources pour écrire l'article. Après, voilà, on a construit un peu le questionnaire ensemble. Et puis après, moi, voilà, j'ai pris les stats. On a fait des stats assez simples. On a écrit l'article et puis on l'a soumis dans un journal. Et puis voilà, ça a été publié. Alors, ta question, la suite. Écoute, j'aimerais avoir le temps de pouvoir faire quelque chose de plus solide, de prospectif, tu vois, par exemple, de... tester par exemple un protocole de prévention sur les blessures en CrossFit, mais tu vois, je mesure, tu vois, avec tous les gens que je rencontre à l'agence et dans les conférences, je mesure à quel point c'est dur de faire de la recherche de qualité, le temps et les qualités que ça prend. Et je t'avoue qu'en ce moment-là, j'ai pas trop le temps, mais j'espère qu'un jour j'aurai le temps et la patience de faire ça, parce que c'est un travail extraordinaire, la recherche, mais c'est vraiment extrêmement difficile. Donc, chapeau à tous les chercheurs qui nous écouteront. Moi, je suis passionné de recherche. J'en ai fait un petit peu à un petit niveau, mais quand je vois, tu vois, des gens comme Chad Cook, par exemple, qui publient des articles, c'est un autre univers, quoi.
C'est clair. Et Flavio, alors on a discuté un peu de tes horaires de sommeil et tout ça, et dans une semaine entre guillemets type, comment tu t'organises, parce que il y a aussi Mackenzie, on en a un tout petit peu parlé, mais donc il y a temps libéral, l'agence BP, la clinique du coureur, Mackenzie. Est-ce que toutes les semaines sont à peu près pareilles et à chaque créneau, on va dire temporel, tu te dédies à une de ces boîtes entre guillemets, ou chaque semaine ça tourne et c'est vraiment tu t'adaptes au jour le jour?
Ouais, alors juste pour être clair, j'ai plus de lien vraiment avec l'approche Mackenzie. J'ai été en fait responsable de l'association française Mackenzie. J'étais président en 2015. J'ai été à la création de cette association-là. Donc c'est une association qui fédère les praticiens de l'approche Mackenzie. Mais j'ai jamais été vraiment investi dans l'Institut Mackenzie, qui est l'institut de formation. Et donc depuis 2015, quand on a lancé l'agence et la clinique, je me suis retiré de toutes mes fonctions avec l'approche Mackenzie, mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au cabinet, que je recommande fortement. Donc maintenant, comment s'organise ma semaine? Ben, en fait, moi, j'ai 2 jours au cabinet, lundi et mardi. Donc là, cabinet classique, vraiment, on prend 1 heure en évaluation première éval, 1 demi-heure ensuite. On a un plateau technique de 40 mètres carrés, donc c'est chouette dans Paris. Et voilà, comme je te disais, je te décrivais ma patientèle tout à l'heure, donc très sport, très membrin, ferrachis. Et après, alors, il y a 2 options. Soit je suis en télétravail mercredi, jeudi, vendredi, pour l'agence et la clinique du coureur. Donc voilà, en mode production de contenu, veille scientifique, structuration, et puis travail avec tous les collaborateurs, donc des entretiens en one-to-one ou des réunions à plusieurs, voilà, et avec les speakers aussi, beaucoup de liens avec les speakers, puisque c'est moi qui contribue à, voilà, construire les programmes de formation, les e-learning, etc. Et donc, soit je fais ça, soit je donne les cours de la clinique du coureur. Donc, c'est souvent jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ou mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et donc là, soit je donne les cours à Paris, soit je me déplace ailleurs. Donc voilà, les semaines sont bien intenses. Moi, mon année est divisée de septembre à décembre, extrêmement intense. Je coupe toujours à Noël, c'est un moment important pour moi, en famille, etc. Donc ça, c'est incompressible. Et après, de janvier à mi-juillet, c'est très intense aussi. Et par contre, je coupe complètement de juillet à début septembre. Et quand je coupe pendant les vacances, moi, je coupe complètement, c'est-à-dire je supprime toutes les applis, sont injoignables, juste pour les urgences, par SMS ou par appel. Ouais, c'est ma façon de fonctionner. Mais le reste de l'année, c'est vrai que c'est assez intense. Mais j'ai une déconnexion totale, ouais.
C'est top, c'est top. Et alors, qui sont tes, voilà, tes mentors et tes sources d'inspiration?
Ouais. Alors, mes mentors, moi, un de mes plus grands mentors, bah, ça a été Marc Lasslett, dans son approche patin atomique, ses recherches extrêmement bien écrites, poussées. J'aime sa réflexion, j'aime son charisme. Après, il peut avoir aussi des côtés un peu vieille école, puisque bah, il a quand même 70 ans, mais il est inarrêtable. Tu vois, il revient enseigner là à Paris en mars. Là, il fait un tour. Il va enseigner en Égypte, après en Pologne. Il vient en Paris et après il repart. Enfin, il a 70 ans. C'est une source d'inspiration pour moi incroyable. Et il vit dans le plus beau. Je pense après la France, le plus beau pays du monde, et l'Italie peut-être, la Nouvelle-Zélande, où j'ai eu la chance d'aller le voir en 2019, parce qu'en 2019 j'ai fait un gros voyage où j'ai eu la chance de voilà d'aller en Nouvelle-Zélande, et voilà, ça a été un voyage incroyable pour moi, où on a partagé des moments incroyables avec Marc. On est allé pêcher notamment dans Golden Bay, un coin ultra reculé de Nouvelle-Zélande, donc voilà, des expériences assez folles, voilà. Donc voilà, mes mentors. Après, bah, tous les speakers à l'agence m'inspirent. Mes collègues à la clinique du coureur m'inspirent aussi beaucoup. Donc voilà, pour la kiné, quoi.
Ouais, c'est top, top. Et en termes de livre préféré, performance ou autre, qu'est-ce qui t'a marqué?
Ouais, alors en termes de livres, alors c'est marrant, ça n'a rien à voir, mais c'est ce que j'étais en train de lire là. C'est un livre, alors je lis beaucoup d'articles, j'aime bien aussi tout ce qui est sociologie, en fait, vraiment la société, ce genre de choses-là. Et le dernier bouquin le plus inspirant, j'ai trouvé le plus incroyable que j'ai lu, c'est un bouquin d'une philosophe qui s'appelle Chantal Jacquet, et le titre du bouquin, ça s'appelle « Les transclasses ou la non-reproduction ». En fait, c'est vraiment une analyse sociologique du changement de classe sociale. Okay. Du changement de classe sociale, dans un sens ou dans l'autre, et en fait... elle détruit un peu le mythe du self-made man, et elle te fait te rendre compte de toutes les influences, tu vois, parce que souvent les gens me disent, mais ah, c'est incroyable, tout ça, ce que tu fais, machin et tout, mais en fait, tu te rends bien compte, et je me rendais compte avant de lire ce livre, hein, mais que, en fait, le mythe du self-made man n'existe pas. En fait, tu as eu, consciemment ou inconsciemment, des influences de beaucoup de gens, c'est souvent le cercle familial, mais aussi des rencontres, des profs, des enseignants, des colonies de vacances, des voyages, des copains qui ont forcément nourri quelque part une ambition, une envie de s'émanciper. Et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de réponses dans ce bouquin. Vraiment, ça m'a beaucoup parlé, et puis ça éclaire aussi beaucoup de choses d'un point de vue santé, puisque d'un point de vue sociologique, tu sais, dans l'aspect biopsychosocial, on pense souvent biopsycho, mais l'aspect social est essentiel aussi dans la compréhension, en fait, de la douleur des gens. Et c'est un truc qui est complètement occulté, par exemple le nombre et la qualité des relations qu'ont les gens, et ça c'est vraiment essentiel, je pense, pour la santé. Donc voilà, bouquin, rien à voir avec la performance, mais voilà, sociologie et philosophie.
Énorme. Et Flavio, alors si il y a des gens qui veulent te joindre hors juillet, août et Noël, est-ce qu'il y a des réseaux? Alors, est-ce qu'il y a des réseaux où tu es le plus dispo?
Ouais, ils peuvent me joindre où ils veulent, quand ils veulent. Par contre, voilà, ils auront peut-être un message automatique de je suis off complètement, je vous recontacte dans 6 semaines. En tout cas, bah, le mieux pour me joindre, le plus sûr, c'est le mail flavio.bonnet@gmail.com, mon adresse directe. Et sinon, je suis assez actif sur Insta. Assez actif sur Insta, donc généralement je réponds, je reçois beaucoup de messages, donc j'essaye de répondre au max, mais voilà, Instagram pour me suivre, et les mails pour voilà, n'importe quoi.
Top, top, impeccable. Flavio, merci beaucoup.
Merci à toi, Julien, pour l'invitation. C'est super chouette.
Avec plaisir et à très bientôt. J'espère que je pourrai venir pour le prochain Paris. Alors, ça n'a pas l'Ower Lim, mais le prochain summit à Paname ou ailleurs.
Yes, avec grand plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation et merci pour ton podcast. C'est toujours un plaisir de t'écouter.
Merci beaucoup. Salut Flavio.
Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.